Préparez-vous à écouter une triste histoire. La scène se passe à Gap. Noé. Noé a un ennemi. C'est Gédéon. Noé a décidé d'en finir. Il se parfume à Gap pour se donner un peu de courage. Et quelque peu ému, il va frapper Gédéon. Pourquoi ? Parce que Gédéon courtisait sa fiancée Anna. Noé, de Gap, parfumé, ému, frappe à Gédéon. Noé, de Gap, parfumé, ému, frappe à Gédéon.
Et voilà, c'est sur un palindrome du défunt Gérard Durand, le gérant du Rare, que s'ouvre ce magazine, mordu légèrement au mollet par les chroniques rebelles, mais se faire mordre par des rebelles, ça me semble normal sur l'antenne de Radio Libertaire. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, et bien comme à l'accoutumée aussi, pour l'ouverture de cette émission, quelques « Je me souviens », chronique d'un temps révolu en attendant les temps révolutionnaires. Je me souviens que chez les amis de ma sœur, on trouvait ça normal qu'il y ait des cendriers, et même dans les toilettes, pour qui voulait en griller une au petit coin. Pour certains, d'ailleurs, c'était même l'occasion de cacher l'odeur de leur merde avant le passage de la maîtresse de maison. Je me souviens que parfois mon père nous disait avoir rêvé de sa sœur, morte de la tuberculose quand il avait 10 ans. L'imaginait-il vieille de 60 ans, ou se revoyait-il gamin ? Il ne nous le disait pas. Je me souviens que Madame Marty, Entschuldigung, Frau Marty, avait germanisé nos prénoms pour les cours d'allemand langue vivante 1. J'étais devenu Klaus, Didier était devenu Dieter, Jean-François était raccourci en Franz, Guillaume était devenu Wilhelm, là j'avais appris quelque chose, tandis que Caroline devenait Carla par approximation. Enfin, faute d'un équivalent de ton simple, Marie-Claire était devenue Gudrun. Mais là, je crois que Frau Marty se vengeait des bavardages de Marie-Claire. Putain, ça lui a collé, Gudrun. Je me souviens que rue de la Villette et rue Villain, on voit encore sur la devanture de Momo l'épicier un reste de son ancienne enseigne Momoprix, belle trouvaille marketing qui lui avait valu les foudres de la grande distribution et un procès. Je me souviens qu'à l'occasion du salon Marjolaine, mes parents passaient manger chez moi. Mince retour des choses. Et parfois, ils trouvaient même les moyens de m'apporter à manger. Des graines de courge grillées salées, de la tourte à l'ortie, trouvées sur le salon. Je me souviens du premier café repris avec Esther après le premier confinement, sur une terrasse un peu venteuse place des Fêtes. Premier café à avoir réouvert dans le quartier. Je me souviens des mémoires à tiroir de Henri Pessard. Il commençait par nous parler de Gina Lollobrigida, puis on se retrouvait dans un avion avec les Stones, puis au Puce de Saint-Ouen avec Yoko Ono et John Lennon, puis à New York dans une cave sans jamais avoir saisi à quel moment il allait remonter le fil d'Ariane de sa mémoire pour nous dire ce que Gina Lollobrigida avait fait de sa bicyclette. Je me souviens de « Donne-moi ton numéro, je t'envoie un pass sanitaire », entendu dans le tramway à la sortie d'un lycée. Je me souviens que j'arrivais toujours à la dernière minute quand j'allais dépanner Jacques Roussel à Fréquence Paris Pluriel pour lui assurer la technique, rue du Mont-Louis ou pire, à la Plaine Saint-Denis. Les invités me disaient à chaque fois « Il courait partout à ta recherche ». Je me souviens de l'appellation « les parachutes dorés » pour les rétributions des grands patrons quand il avait été question de moraliser le capitalisme. Je me souviens que ma mère avait punaisé sur le mur de sa chambre des photos de mes sœurs, une de moi aux côtés d'Esther et une dizaine de photos de petits-enfants, dont plusieurs que je ne connaissais même pas, récupérées dans les autres chambres des autres pensionnaires de l'EHPAD. Je me souviens d'une BD de Carlos Jiménez, dans Fluide glacial, mais pas dans la veine gros seins et trucs énormes. On y voyait juste en noir et blanc semi-réaliste un vieil homme, réduit à la misère, descendre dans la rue, et la dernière case le montrait tendant la main pour la première fois. Glaçant. Je me souviens des tartines largement beurrées, saupoudrées de chocolat poulain. Le 4 heures que ma grand-mère préparait pour mes cousins et moi, à 16 heures justement. Je me souviens de « D'où qui pue donc tant ?» premier mot de Zazie dans le métro, et je me souviens d'avoir en classe disserté sur le mot « homosexuel » inventé par Queneau. Je me souviens qu'une fois, Perline avait entendu par hasard dans le métro deux femmes discutant de l'émission Microclimat, la seule émission de radio en couleur sur l'écologie, qu'elle avait réalisée la veille sur Radio Libertaire. Les deux femmes descendirent du wagon avant qu'elle ait eu le temps de leur dire « Hé, Perline, c'est moi !» Je me souviens que dans le quartier de la Défense, dans les années 70, c'était à quelle société laisserait le plus de lumière de bureau allumée la nuit pour mettre en valeur sa tour, Fiat, Esso, Nobel, Winterthur, UAP, GAN et autres. Je me souviens d'un grand pan de mur dans le quartier du Marais, couvert un matin de tout un texte. Chaque caractère était une feuille à quatre avec une lettre au pochoir, placardée à la colle pour affiche. 20 lignes de texte où l'auteur racontait le meurtre de sa mère par son père malgré 3 dépositions à la police. Épitaphe de papier, témoignage anonyme d'un crime anonyme.
Sur les collines vertes, maïs et bananiers, des cabanes couvertes avec ce qu'on a trouvé, morceaux bleus de plastique, vieilles tôles rouillées, c'est au fond de l'Afrique et c'est presque tout près. Tu peux pleurer petite, serrée dans tes haillons, l'endroit où tu habites n'a même pas de nom. Une trace violette raconte sur ta peau un sale coup de machette. Les hommes sont des salauds. C'est un camp où s'entassent les chassés de partout, à cause de leur race, par la faute des fous. À peine assez de place pour se tenir debout, dedans la case basse où tu dors dans la boue. Tu peux pleurer petite, ce qui berce tes nuits, c'est l'horreur de la fuite et des coups de fusil. Pour ton père et ta mère, y a pas eu de tombeau, mais l'eau de la rivière, les hommes sont des salauds. Il n'y a pas de pétrole dans ton pauvre pays, ceux qui aident et consolent sont là bien démunis. Le blanc livre ses mines, le nègre les enfouit. C'est une bonne combine pour qui vit loin d'ici. Ton histoire est écrite avec des larmes et du sang. Tu peux pleurer petite si chez nous l'on t'entend. Pris par quelque autre guerre, nous t'oublierons bientôt. C'est assez ordinaire, les hommes sont des salauds.
Rendions hommage la semaine dernière à Michel Buller, chanteur suisse disparu, et comme Michel Buller est encore mort, nous continuons cette semaine discrètement à lui rendre hommage. Au travers de cette chanson, je me souviens quand il avait apporté l'album, il nous avait tout simplement dit cette chanson, j'ai décidé de l'appeler chanson nécessaire. Radio Libertaire 89,4 MHz. Eh ben, Gilles est de retour autour de la table, mais dans l'ordre alphabétique, ben si, dans l'ordre alphabétique, ça serait d'abord Gilles, mais moi, je te laisse présenter aujourd'hui.
Très bien, très bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Et donc, une tradition oblige, Guimard. Radio Libertaire 89,4. Eh bien, bien, bonjour, bonjour, Radio Libertaire, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes aujourd'hui un petit peu seuls, parce que j'attendais un invité qui ne vient pas, je ne le vois pas arriver. C'est un monsieur qui a présenté un film vietnamien il y a 2 jours, très intéressant. Un film vietnamien sur un éleveur d'abeilles qui a été complètement, comment dirais-je, déstabilisé par les cultivateurs voisins qui sont parrainés par une grosse fortune et qui, à cause des produits d'insecticides, ont causé pas mal de dégâts chez cet éleveur d'abeilles. Et donc, je vous invite vraiment à aller le voir, ce film. Mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être représenté. Et j'attends toujours le réalisateur que j'ai invité, M. Poirier. Voilà, je ne le vois pas. Alors, on s'est bien donné rendez-vous à 15h30, Radio Libertaire, mais je ne le vois pas. C'est dommage. Voilà. Nicolas, je te présente aujourd'hui notre cher Gilles Gérard, qui est de retour d'un long voyage, d'une longue absence, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Et qui va nous annoncer un de ses textes poétiques, comme d'habitude.
Bonjour à vous tous et à vous toutes. Là, je vous lirai un texte de Jean-Marc Le Bihan, quelqu'un que j'ai bien connu pendant 10 ans, de 1985 à 1995. J'ai parcouru son histoire de rue, anarchiste, et il avait écrit un texte pour nous deux. Alors je vous lis ce texte. Parce qu'il était comme il vivait, parce qu'il aimait ce qu'on n'aime pas, parce qu'il parlait comme il parlait quand tous les autres ne parlaient pas, parce qu'il s'habillait comme il s'habillait, parce qu'il riait comme on ne rit pas, parce qu'il croyait en ce qu'il croyait quand tous les autres n'y croyaient pas, parce qu'il se livrait tout cru et sans loi, parce qu'il se livrait, ça ne se fait pas, parce qu'il chantait à pleine voix quand tous les autres ne chantaient pas, parce qu'il aimait comme il aimait, que pour l'amour il ne se cachait pas, la vérité, parce qu'il la criait, dire la vérité, ça ne se dit pas, parce qu'il était comme il était, être comme les autres ne l'intéressait pas, parce qu'il voulait ce qu'il voulait, vouloir ce qu'on veut, ça ne se veut pas, parce qu'il dansait comme il dansait, le rythme fou l'ensorcela, parce qu'il rêvait comme il rêvait, rêver comme soi, ça ne se rêve pas, parce qu'il pensait comme il pensait tout haut, vous n'y pensez pas, au nom de la loi, parce qu'il contestait, dans une petite cage on l'emprisonna, le corps prisonnier, l'esprit s'évadait, un petit garçon qui passait par là, un tout petit garçon, doux comme il était, recueillit l'esprit, l'apprivoisa, parce qu'il vivait comme il vivait, parce qu'il aimait ce qu'on n'aime pas, parce qu'il parlait comme il parlait, quand tous les autres ne parlaient pas, quand tous les autres ne parlaient pas.
Merci, Gilou.
Un petit, puis voilà.
Des mineurs de Gardanne aux mineurs du Brésil, pour ceux que l'on condamne pour ces milliers d'exils, pour ceux qu'on assassine au nom de rien du tout, pour les chiens qu'on surine la tête dans l'égout, pour l'oiseau qui s'envole que l'on crible de plomb, l'enfant qu'on engueule et qui pleure pour de bon, pour les tendresses sales et les amours blessés, pour les cœurs qu'on effeuille, que l'on jette au panier. Peuple, réveillez-vous, pour les âmes déchues, tous les sans paradis, pour les causes perdues, pour le dernier des cris. Pour tous ces rien du tout qui se traînent à pleurer, pour les simples et les fous, pour cette envie d'aimer. Pour la terre que l'on ruine, nature prise en otage. Pour ces souffres à l'usine qui s'usinent avant l'âge. Ces enfants sans visage, orphelins par les guerres, pour tous ces paysages, couleur de cimetière, peuple, réveillez-vous. Pour briser dans nos têtes tous les murs de Berlin. Pour le dernier poète, la dernière des putains. Pour la fin des marchands, les choses invisibles, pour que le nain soit grand, pour bâtir l'impossible. Pour le monde en sursis, la dernière fleur fanée. L'océan qui rugit comme pour crier pitié. Pour l'amour de la terre, le dernier goéland, pour ceux que l'on enterre, le dernier des mourants. Le temps des gitans, les ailes du désir. La symphonie du vent, tous les êtres à venir. Pour les libres penseurs, force de la pensée. Pour la mort des censeurs, la censure censurée. Pour sauver la planète, pour ceux qui vont naissant. Que chaque jour soit fête et chaque amour troublant. Pour celui qui va seul, qui se sent rejeté. Pour la dernière des folles qui crie le verbe aimer peuple. Réveillez-vous. Pour ne plus désunir nos regards et nos mains. Pour un seul peuple à dire, pour un seul peuple humain. Pour celui qu'on insulte, dernier des Mohicans. Pour le dernier des justes, pour le dernier volcan. Au nom de ceux qui souffrent, criez encore plus fort. Pour nos cœurs qui s'engouffrent, à la vie, à la mort, le peuple.
Pour faire une bonne chanson, pas besoin effectivement de beaucoup d'instruments, quatre comme c'est le cas ici, plus une voix effectivement, celle de Jean-Marc Le Bihan. Je pense que notre invité est en train d'arriver à la porte, mais peut-être que Gilles a un autre texte à nous livrer.
Bon, je vous lirai là, c'est un crisp, un texte écrit par moi. Écoute ces prénoms roses, ça chante. Oumou, ça danse, Aïcha, ça violonise. Entre les tambours du monde, entre les branches d'un devenir, Aurore se présente. Aude se délude, clair s'illumine. Le chant des cygnes et nouveau jardin. Volga respire la mangue, Hélène marche en sabots. Vers Ulyssa, vers Fatima, vers Sadio. Écoute ces fleurs d'étoiles, écoute tous ces arbres qui te disent, tous ces déserts qui vocalisent de leurs regards pleins de silence. Une œuvre est à germer, prends tous ces prénoms et avec les tremblements et tonnerres jaillit l'extase d'être étendu. Utile la fierté d'une sève qui rallume et traverse tous les villages. Rien ne s'efface et s'enlace de toute terre le ventre des races. Soit-elle ombre qui passe, naissance en lumière, vent d'en face.
Dans la chaleur pesante de la salle d'attente à Lausanne, une nuit, ils sont là, 20 ou 30, qui somnolent ou qui chantent. Pour passer leur ennui, ils ne parlent pas mon langage. viennent d'Espagne ou d'Italie. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ils ont dans leur valise un trésor, trois chemises, un pantalon usé. Dehors, le froid, la bise racle la pierre grise et le goudron du quai. Ils viennent bâtir nos barrages, nos ponts, nos autoroutes aussi. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Leur maison, leur famille, leurs garçons et leurs filles, ils ont dû les laisser. C'est la loi qui le dit, paraît, dans mon pays, il y a trop d'étrangers. Leur faudra du cœur à l'ouvrage, et puis apprendre à dire oui. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance. On ne veut que leurs bras. Et tout ça est normal, et tout ça me fait mal. Ça se passe chez moi. Ils retrouveront leur village quand on ne voudra plus d'eux ici. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. C'est pas par plaisir qu'il voyage.
Radio Libertaire 89,4 MHz, encore une autre chanson de Michel Buller datant des albums de ses débuts. Alors il se passe des choses bizarres dans le studio, on coupe les micros et quand on rouvre les micros, il y a une personne de plus. Bon, il faudra que tu m'expliques.
Alors bon, bah, je te laisse te présenter.
Bonjour, Catherine Belkodja, auteur et metteur en scène et peintre. Il se trouve que Moa m'a surtout demandé de venir dans ce créneau horaire, je pense, pour parler théâtre.
Absolument, et puis parler de ce que tu fais.
Oui, je ne voudrais pas retirer
monsieur. Non, ne t'inquiète pas.
Très bien.
Aucun problème. Je vous écoute.
Très bien. Il se trouve que Moa a découvert une photo qui me représentait dans une pièce qui s'appelle Splendide Exilé, qui est une pièce écrite par un auteur algérien qui s'appelle Areski Metref, et dont j'ai fait l'adaptation, enfin pas de Areski Metref, mais de la pièce. Et cette pièce a été jouée d'une part en France, et puis ensuite nous avons été invités en Algérie, tout d'abord dans le cadre de Racontard, qui est une très très belle manifestation qui a lieu en Algérie tous les ans. Évidemment, peut-être pas pendant le Covid, mais ça reprend. Et ce festival a le mérite d'inviter des artistes du monde entier et dans des tout petits villages et en Kabylie. À chaque fois, on choisit un village kabyle. Le propos est de ne pas demander à ces gens qui sont dans des tout petits villages de venir forcément à Alger voir une pièce ou même à Béjaïa, mais au contraire, c'est une façon d'emmener la culture au pied même des villageois, parfois dans des villages un peu escarpés. Et c'est toujours une très très belle expérience. Il y a un monde fou, il y a des gens qui viennent de tous les pays. Il y a de la peinture, il y a même des fresques réalisées sur les villages et qui persistent ensuite. Il y a des pièces de théâtre en plein air ou pas. Il y a évidemment des films et surtout beaucoup d'auteurs. Et c'est une occasion de découvrir des gens du monde entier.
Est-ce que tu as été aidée? Tu as été un peu financée, un
alors,
peu sponsorisée?
Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait être une simple lecture dans un centre culturel. Areski était venu me voir avec sa pièce qu'il essayait de faire monter depuis 10 ans. et il me demandait de faire un woman show. Et puis, bon, moi, je travaille souvent seule, parce que l'écriture, c'est un travail très solitaire, la peinture également. Et quand je fais du théâtre ou du cinéma, le plaisir, c'est de partager avec une équipe. Donc, j'ai été plus attirée par l'idée de faire une adaptation qui permettait au départ, dans ma troupe, il y avait 15 personnes. On a joué à 15. Et puis ensuite, on en a fait une seconde parce que les gens ont réclamé. La salle n'était pas si grande. Donc, on a refait une lecture. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu le festival Racontard. Et là, déjà, nous avons dû limiter. Évidemment, on n'était plus que 4. Et puis ensuite, il y a eu le Festival international de théâtre. Et qui, de Béjaïa, qui avait été interrompu pendant quelques années et qui a repris avec bonheur. Et donc, nous avons eu la chance de jouer dans ce théâtre. Et évidemment, nous imaginions que nous pourrions par la suite faire une tournée avec le spectacle. Et puis, ça a été les années difficiles que tous les intermittents connaissent, où les tournées sont plus ou moins déprogrammées. Et puis ensuite, quand ça reprend, ben évidemment, ça se télescope, tous les projets. C'est la même chose dans le cinéma. C'est-à-dire que les gens qui ont sorti un film au cinéma, évidemment, ils sont tous derrière en attendant d'avoir un espace de programmation. Et malheureusement, on ne donne pas beaucoup de chance au film parce que tout se décide le mercredi. Et le mercredi, à 14h15, non, pas 14h, mais disons à 16h, le sort du film est décidé. Mmh. C'est-à-dire que si les salles sont pleines, on prolonge un petit peu, et puis sinon, on passe au suivant. C'est la logique commerciale qui s'applique encore plus pendant les années où les gens ne pouvaient plus aller au cinéma et où les films ne pouvaient pas sortir. Il y a des quantités de films qui ont déjà coûté un prix fou et qui resteront dans des tiroirs, malheureusement, parce qu'on ne trouve pas de créneaux de distribution. Alors des villes comme Montreuil offrent une large place à tous les cinémas de cinéastes indépendants, de productions indépendantes, de distributeurs indépendants, et leur donnent leur chance. Mais c'est exactement la même chose au théâtre. C'est-à-dire
donc
que
tu
sans
n'as pas
sorte...
répondu à ma question au niveau du sponsoring et de l'aide
alors
financière.
Alors si, j'en viens. Je disais qu'au départ, ça avait été lancé donc avec ce que j'appelle ma compagnie, c'est-à-dire mes propres sous. Mmh. Et par la suite, à Racontard, nous avons simplement été pris en charge parce qu'il y avait quand même les voyages de la troupe. Nous avions un lieu qui était un lieu très simple, hein, puisqu'en fait, les artistes étaient logés dans des... ils mangeaient à la cantine, et puis ils dormaient dans des auberges de jeunesse. Hein, c'était très, très simple. Et puis ensuite, au Festival international de Béjaïa, c'était un peu mieux, évidemment, parce que c'est un vrai théâtre. Donc là, cette fois-ci, on était dans un très bel hôtel. Mais de l'argent sonnant trébuchant, non. Voilà.
Donc c'est la municipalité qui gérait un peu tout ça ou...
La municipalité, mais
ou,
de
ou
quoi
ou l'État, ou quoi ou ministère.
Mais rien. C'est une initiative.
Pour les hôtels, par exemple, c'est
alors,
vous qui
pour
les
hôtels, c'était le festival de Béjaïa qui prenait en charge l'hébergement de la troupe.
D'accord.
Voilà. Et puis les voyages. Et pas, non, pas tous d'ailleurs. Il n'y a que 2 voyages qui ont été pris en charge. Voilà. Mais bon, ma troupe a assuré le complément, c'est-à-dire moi-même. Voilà. Et puis sinon, alors ensuite, la pièce a très bien marché. On a eu un très, très belle, une très belle presse. Mmh. Et par la suite, pendant les années Covid, où on pouvait moins jouer, mais plus écrire, j'ai donc écrit 2 pièces cette fois-ci. Et que j'ai mis en scène également. Donc une pièce qui s'appelle « Heureux comme un roi », qui a été jouée à La Villette, à la grande halle de La Villette, et avec Denis Lavant, avec Gladys Sanchez, qui était en même temps chorégraphe, avec d'autres amis, et puis moi-même aussi, et puis... par la suite, nous avons monté une autre pièce cette fois-ci pour le Théâtre 104, et qui était la suite, et qui s'appelle Escapade nocturne, et qui est aussi également un volet de la trilogie.
Avec Nicolas,
très bien.
Qui va intervenir avec quelque chose de particulier. À toi, Nicolas.
Moi, si on parle de la ville de Béjaïa, je pense à Djamel Alam, qui en était natif et qui est inhumé maintenant au cimetière de Béjaïa, dit également Bougie, avec cette chanson qui date de 2001, Afoussim, chanson parlant de la paix, avec ce superbe cœur d'enfant dessus, enfin de la paix et de la difficulté qu'on a à l'avoir, effectivement. Radio Libertaire, 89,4 MHz.
Oui. Bon, ben, écoute, moi j'en profite pour changer un tout petit peu de sujet, pour parler d'un monsieur qui a sorti un livre très intéressant qui s'appelle « Pour en finir avec le théâtre ». Et c'est monsieur Jean-Luc Génère. Donc j'en dis deux mots. Ce qu'il dit, « Le théâtre est un verbe qui devient chair, un comédien qui devient personnage, un moment habité par les spectateurs, une catharsis citoyenne, un apprentissage de la complexité et de la finesse. Or, notre théâtre n'est aujourd'hui le plus souvent que spectacle désincarné et sans âme. Triste pitrerie, oui, one-man show, etc., et autres ersatz de théâtre. Et ceux qui s'obstinent à faire du vrai théâtre sombrent parfois dans la course au spectaculaire, dans l'édifiant, oui, dans l'aridité, oubliant que c'est l'humain qui doit être au cœur du théâtre. Depuis donc l'Antiquité, sans théâtre, la cité se meurt, la démocratie s'achève, les pires instincts se déchaînent, dans une France divisée, pourvu que les pouvoirs publics lui donnent les moyens d'exister, le théâtre peut contribuer à notre salut collectif. Voilà, c'était M. Jean-Luc Génère, qui est une des grandes figures du théâtre français, comédien, dramaturge, metteur en scène. Il dirige actuellement le théâtre du Nord-Ouest, à Paris, où j'ai joué, c'était hier, Sabra et Chatila, de M. Noureddine Abba, voilà, avec la présence de M. Jean Genet, et également critique d'art dramatique dans plusieurs grands journaux nationaux. Voilà, voilà, voilà.
Alors, disons que moi, je travaille exactement aux antipodes, c'est-à-dire que lui, il a un théâtre hyper subventionné, et moi, j'ai pas un sou, et je fais quand même des pièces, voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est important de savoir comment on essaie de lutter pour pouvoir exister quand même, et qu'est-ce qu'on a à dire, et qu'est-ce qu'on essaie de faire, parce que je veux dire, faire exister des théâtres, c'est aussi avoir une politique, justement, d'accueillir le public avec des tarifs qui sont raisonnables, parce que sinon, on joue devant des salles vides. Mmh. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans ce théâtre. Il y a tellement de pièces qui sont programmées, mais sans absolument aucune communication. C'est-à-dire que quand on va dans le théâtre, on ne sait même pas quelle pièce on peut voir. Mmh. Il faut faire des affiches. D'ailleurs, tu te souviens, j'avais dû te faire une affiche. Il n'y avait même pas l'affiche avec le titre. Mmh. Et ça, c'est vraiment un problème. Si on joue au théâtre, la première chose qu'il faut faire, c'est communiquer. D'abord, par respect pour les comédiens. Parce que quand les gens répètent, et qu'ils sont là, et qu'ils jouent, tous les soirs, devant très peu de spectateurs parce que les places sont trop chères, eh bien, le minimum, c'est qu'on leur permette d'exister à travers l'affiche et la communication.
Tout à fait. À toi, Nicolas.
Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux-piqueurs, alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare, j'avale 4 expressos très fort, je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle, le reste, je ne m'en soucie guère du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, j'apprends que machin va jouer Scapin. Un rôle pour moi, ça. J'apprends que Dupont va jouer Néron, mais il sera mauvais comme un cochon. Enfin, franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins, hein, que Humphrey Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole. J'ai tout, moi, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance, et moi aussi je serai l'idole des foules. Je suis comédien, je sens soudain le destin à portée de la main. Je monte chez moi, prendre mon bain. Je me sens des ailes, Paris, Paris, tiens-toi bien. Je fonce à Boulogne, bien court. Je dis, je veux voir Monsieur Dartmoor. Oh, espérance, oh là là, aucune importance, allez, allez, j'attendrai, je suis dans un bonjour. Je suis comédien, quand le soir vient, que je n'ai pas vu Monsieur Dartmoor, tant pis, je m'en vais. Bonsoir aux copains et puis le maître au cœur chagrin, cœur lourd. C'est que dans ma tête, le lampion s'éteint, dans mon cœur se meurt le bout en train et l'affreuse peur du lendemain m'éteint. Je suis comédien, chez moi je reviens, ne croyant plus en moi, ne croyant plus en rien. Grâce à Dieu, j'ai encore du whisky. C'est cher le whisky, oui, mais ça guérit. Au troisième verre, déjà j'oublie ma vie sans amour, ma vie sans amis. Vie que j'ai voulu seulement remplie de moi et de moi et de moi. On croit que c'est énorme à moi, mais c'est tout petit. Je suis comédien, bientôt je suis plein d'alcool, plein de rêves et l'espoir revient. Je suis comédien, comme une tempête, les répliques tournent, tournent dans ma tête. Je suis comédien, j'entre, c'est à moi, j'entends la foule hurler de joie. Je suis comédien, j'ai le monde en main, je suis roi, je suis Dieu, mieux que cela je suis.
Chanson sur la situation des comédiens, effectivement. Le texte initial est de Jacques de Broncard. Ici, l'interprétation est de Christian Kamerlinck. Moi, j'ai des petits défauts en régie, c'est de répondre au téléphone quand des auditeurs nous signalent des choses et d'aller vérifier sur la page Wikipédia, effectivement. Jean-Luc Génère, quand même, écrit pour Le Figaro et pour Valeurs Actuelles, ce qui va le situer, même par les radios où il est invité parfois, assez à droite sur la bande FM.
C'est ça que je voulais expliquer quand même. Il y avait, c'était d'accord, un peu en porte-à-faux. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'intervenir. C'est-à-dire bon, que Radio Libertaire, on s'attend un petit peu à un autre son de cloche.
On laisse Jean-Luc Génère de côté. Et je donne une information.
Merci
de la part
Nicolas
de,
quand même d'avoir s'il vous plaît, spécifié. Voilà.
De la part de Evelyne Tran qui envoie des informations. Donc au théâtre contemporain, il y a une pièce qui peut être intéressante pour les auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. Ça s'appelle « Les sept nuits de la reine » de Christophe Singer. « Les sept nuits de la reine » du 24 novembre au 4 décembre 2022. Voilà, donc c'est au théâtre de l'Épée de Bois. C'est à la Cartoucherie. Donc en prenant le bus Château de Vincennes, Cartoucherie. Voilà. Et donc il s'agit tout simplement d'une femme qui se raconte en cette nuit, de la première nuit, alors qu'elle veille sa mère qui va mourir et que lui revient le souvenir de ses 7 ans à Berlin en 1943. Quand avec sa mère jeune, belle, intrépide, elle traverse la ville en ruine pour rencontrer dans une prison ce père qu'elle ne connaissait pas à l'avant-dernière nuit. Ce sont des nuits donc nourries par la passion, l'attente ou le désespoir. Il lui faudra donc la dernière nuit pour connaître l'apaisement. Une initiation en 7 étapes, un roman porté par un souffle de poésie et une interrogation profondément contemporaine sur le versant secret du monde des êtres. Alors, j'ai compris que nous ne pouvons affronter le jour que lorsque nous avons la nuit en nous. Pourquoi cette nuit et pourquoi sept, me diriez-vous? Parce que Dieu a créé le monde en 7 jours et qu'il a donné aux femmes la garde des nuits. Il faut en comprendre la raison. Les nuits sont trop immenses, trop redoutables pour les hommes. Non, pour sûr que les femmes soient plus courageuses. Elles sont seulement plus à même de bercer sans poser de questions ce que la nuit leur donne à bercer, oui, à bercer l'inconnaissable. C'est Singer qui le dit. Voilà, donc cette pièce s'appelle « Les sept nuits de la reine » au théâtre de l'Épée de Bois, du 24 novembre au 4 décembre. À vous de jouer, camarade.
Alors, si on en est à parler de nos coups de cœur, voilà, il faut absolument, oui, il faut absolument parler de la pièce de Nasser Djemaï qui a lieu actuellement au Théâtre des Quartiers d'Ivry et qui est une pièce absolument merveilleuse, qui est donc un autre volet de la trilogie consacrée à l'émigration. Il nous a donné déjà de très très belles pièces, de magnifiques mises en scène qui ont d'ailleurs remporté des Molières, hein, puisqu'il a eu le Molière du meilleur auteur francophone, du meilleur auteur vivant. Et cette fois-ci, les gardiennes montrent la situation d'une dame qui est souffrante et qui n'a pas encore été dans un EHPAD où on hésite de plus en plus à mettre nos parents compte tenu de la situation des infirmières qui évidemment craquent sous le poids des contraintes et voilà et qui sont en lutte en ce moment. Et donc nous avons donc une dame qui a réuni autour d'elle trois anciennes ouvrières du textile qui travaillent avec elle et qui sont là pour l'aider, pour la soutenir, parce qu'elle ne peut plus manger toute seule, elle ne peut plus aller faire ses courses. Et ces trois gardiennes ont trouvé un modus vivendi qui permet de rendre la vie plus légère et plus belle. Et puis un jour débarque la fille de Rosa, puisqu'elle s'appelle Rosa, et qui, elle, est médecin et qui pense qu'il faut faire toutes les choses comme on dit qu'on doit les faire, et qui pense donc trouver un établissement pour sa mère, qui veut vendre l'appartement en vitesse en 3 jours dans une agence, et qui veut demander donc à ces trois dames de partir. Et on se rend compte que, évidemment, les choses ne vont pas toujours comme on veut. D'abord, on a du mal à trouver un établissement. Ensuite, il n'y a pas de rendez-vous libre avant très 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 longtemps. Et puis tout simplement, c'est que Rosa, elle a besoin de douceur, d'empathie, de compassion, de rire, d'humour. Et que tout ça, malheureusement, on ne peut plus l'avoir dans une EHPAD, puisque maintenant, les soignantes sont arrivées à faire du chiffre, parce qu'elles sont si mal payées, plus personne ne veut faire ce travail, on manque de bras, et les gens sont livrés à eux-mêmes. Donc cette pièce aborde d'une part ce problème, d'autre part la part d'ombre qu'il peut y avoir entre un univers du réel, de trois personnes qui travaillent, qui ont travaillé toute leur vie, et puis le monde un peu abstrait du rêve, puisqu'elles sont là un peu comme trois petites fées à veiller sur cette vieille dame. Et finalement, c'est elles qui prendront le pouvoir. Ces petites fées pourront même se transformer en sorcières. Je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il faut aller voir cette pièce.
Très bien.
Théâtre des Quartiers d'Ivry, mise en scène de Nasser Djemaï.
Très bien, très bien. Puisqu'on est en pleine programmation, donc... Il y a aussi une autre pièce au théâtre Le Pic, mardi 6 décembre à 11h. Voilà. Comment dirais-je ? Une pièce qui a été écrite par Albert Arnulf et Reynold de Guéniveau, le mardi 6 décembre à 11h au théâtre Le Pic, 1 avenue Junot, 75-018. Voilà, donc ce spectacle sera ensuite présenté à la Manufacture des Abbesses du 12 janvier au 19 février 2023. Bien, perte de sens au travail, conformisme, absence de repères face aux défis inédits de notre époque, les auteurs proposent leurs solutions avec cette première création, Réveillons-nous. Voilà, entretenant un rapport terne avec la vie en entreprise, nous avons tous les deux fait le pari d'une vie artistique loin de la torpeur, des open space et autres meetings de travail. Comment en est-on arrivé là? À quel moment la machine qui paraissait pourtant bien huilée a-t-elle déraillé? Avons-nous fait les bons choix? À travers Yvon, nous avons voulu représenter la jeunesse actuelle qui doit trouver le bonheur dans un monde aux défis inédits. Voilà, c'est M. Albert Arnulf qui le dit, et Reynold de Guéniveau. Voilà, donc je vous invite également à découvrir cette pièce, très intéressante. Et puis, si vous voulez réserver, vous pouvez contacter la relation de presse Valérie Gérard au 06, notez bien, 03 22 44 14. Je répète, 06 03 22 44 14. Voilà, Valérie Gérard. À toi, Nicolas.
Titre l'engrange dans des greniers de la mémoire. Mes aïeux. Les os de ces soldats s'amusent aux jointures et font un puzzle à réinventer l'homme abstrait. C'est le jeu d'osselet avec la pourriture que font les gens de guerre, accroupis sous l'engrais. Homme de tes vertus, je gueule l'imposture. Je suis terre, il est vrai, mais à dies Irak, je préfère un chant noble et que nulle souillure ne vienne l'enrayer, fût-ce un drapeau sacré. La guerre, c'est l'azur trempé dans la lessive. C'est le dieu de chacun qui nous montre du doigt. C'est un paix. C'est un tic. C'est une alternative. Mourir, hors note mourir. On est trop à l'étroit. La guerre, c'est le chant d'amour d'une planète qui fiante dans mes flancs des bijoux de 20 ans. La guerre, oh putain, sale inconnu des poètes, et qui me fait de l'épopée et des sergents. La guerre, mon petit, c'est comme l'aspirine. Ça fait passer le mal d'aimer, le doux prochain, ce prochain de Jésus qui se creuse l'échine à promener la Marseillaise.
Et voilà, ça c'était une improvisation, évidemment, de l'ami Jean-Marie Blanche, accompagné aux instruments derrière, bols tibétains ou autres, par Michel Seul. Sur l'antenne de Radio Libertaire, il est 16h27, il fait un peu frais dehors, mais qui c'est ce « il » qui réussit à faire l'heure et à faire la pluie et le beau temps ? Ça, nous le saurons un jour quand même.
Oui, donc je continue donc dans mes informations. Il y a également rue Mercœur, 2 rue Mercœur, 2 bis rue Mercœur, un événement sur le Maghreb, état des lieux, enjeux et perspectives. Voilà, et donc c'est 2 bis rue Mercœur, Paris 11e, à partir de 18h, le 30 novembre. Le 30 novembre, donc ça peut être intéressant aussi pour certaines populations concernées. Voilà, voilà. Donc, Catherine, as-tu d'autres choses à nous raconter ?
Oui, peut-être j'enchaîne sur ce que tu viens de dire.
Dit que c'était moi, alors.
Ah, mais juste, je fais une parenthèse et puis tout de suite.
Et après.
Parce que tu parlais du Maghreb, oui. Il y a en ce moment un salon du livre, franco-berbère, à la mairie du 5e. Il est encore temps d'y aller, courez-y. Ouais.
D'accord. À toi, Gérard.
Mais là, je vais continuer sur ma traversée de Jean-Marc Le Bihan, qui a été toute sa vie un anarchiste pur et dur. Et c'est vrai que je l'ai côtoyé pendant 10 ans, j'ai suivi sa trace. Et croyez-moi, là, c'est pas la scène, hein. C'est pas le théâtre sur scène, hein. C'est face aux légionnaires, aux paras, à la police et au CRS. Et moi, j'étais à côté de lui pour défendre des textes de révolte. Voilà. Alors, je vous lirai des gens sans importance. Des gens sans importance, on dit des gens sans importance. Des gens qui ne sont jamais nés, des anonymes, des pas de chance. Des gueules meurtries, des gueules cassées. Des pauvres gens mal de chance qui doivent se taire et travailler. Des gens qui ont perdu d'avance pour ceux qui croient avoir gagné. On dit des gens sans éloquence, des gens sans grandeur à venir, on dit des gens sans importance, on dit des gens sans avenir. J'ai vu des gens sur ma route, des tragédies, des fantaisies, des gens qui, malgré leur déroute, faisaient encore valser la vie. Des gens qui n'avaient rien du tout, qui pourtant t'auraient tout donné. Des gens tombés, qui d'un seul coup essayaient de se relever. J'ai vu des gens sans histoire, qui se racontaient sans tricher, des gens muets dans leur parloir, qui ne savaient plus à qui parlaient. Oui, j'ai vu des gens sans défense, des cœurs meurtris, abandonnés, qui, du profond de leur souffrance, croyaient encore au verbe aimé. Des gens de tout bord, de tout large, des gens d'horizons si lointains, des gens qui comptaient, page à page, les maladresses de leur destin. Des gens qui n'usaient d'aucun charme, des gens de soucis quotidiens, des gens démunis et sans armes que l'on fusille tous les matins. On dit des gens sans importance, des gens qui ne sont pas cités, des gens qui comptent leur dimanche et qui ne savent pas bien compter. On dit des gens sans un diplôme, des gens sans université, qui n'ont pas inventé l'atome et qu'on envoie se faire tuer. On dit des gens sans aventure, frileux dans leur sécurité, des gens qui se tuent en voiture parce qu'ils voulaient accélérer. J'en ai vu des gens, des ivrognes, des comptoirs toute la journée, des qui s'étaient cognés la trogne à leur amour, à leur passé. J'ai vu des gens sans bonheur qui s'en allaient petitement, des gens qui réclamaient encore le droit de vivre dignement. On les regarde dans leur mouroir, ils font rire bien souvent des gens sans nom, des gens sans gloire, des gens tout court, des petits gens. J'ai vu des gens couverts de gloire, des stars repues et adulées qui pleuraient devant leur miroir parce que les rides avaient poussé. Comme pour crevasser leur visage, comme si la mort les torturait, arrivés au bout du voyage, ne sachant plus à qui ils étaient. J'ai vu des gens couverts d'argent se cacher pour pouvoir pleurer et redevenir impuissants car leur enfant s'est suicidé. Et plus rien n'avait d'importance. J'ai vu des gens pleins d'importance se dire en bonne volonté, tricher en toute impunitance pour le pouvoir assassiner. J'ai vu des assassins de l'ordre fusiller des hommes innocents au nom de l'État en désordre, emprisonner les opposants. J'ai vu ces rois, ces présidences, eux qui se croyaient les plus forts, recroquevillés dans leur puissance, trembler de peur face à la mort. On dit des gens sans importance, qui n'ont jamais tué un chat, des gens fleuris comme l'enfance, qui pour mourir tendent les bras. J'ai vu des gens tellement sensibles que pour parler, ils se noyaient, des gens qu'on traitait d'imbéciles et qui simplement souriaient. J'ai vu ces gens, ces invisibles, qui tout simplement cheminaient avec des rêves inaccessibles, mais qui parlaient, ils atteignaient. On dit des gens sans importance, j'ai vu ces gens avec mes yeux, ils sont ma voix et ma souffrance. J'ai besoin de te parler d'eux. On dit des gens sans importance.
Ha, 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 ha
merci. C'était Jean-Marc Le Billard.
Mais la scène, c'était le trottoir pour lui, voilà.
Ah, c'est ça.
Merci, Gérard.
Merci à toi.
Oui, donc.
Et voilà. Alors, puisqu'on parlait également des migrateurs et puis des migrations, et puis du Maghreb et des livres, ça tombe très très bien parce que vient de sortir la revue A, Littérature Action, dirigée par Marie Virol, avec Christian Viguier également, qui fait partie du comité. Et cette revue offre ses pages à tous les artistes, que ce soit les peintres, les écrivains, les journalistes qui ont un rapport avec le Maghreb particulièrement. Et donc la nouvelle revue vient de sortir avec un hommage également à Michel Bouju, avec un hommage à Monsieur Jaber, qui est donc un peintre tunisien d'art brut, qui a toute sa vie peint absolument chaque jour et qui était un habitant très connu du 20e arrondissement. C'était un travailleur inlassable, un homme assez bouleversant, qui ne vivait que pour sa peinture, qui au départ venait de Tunisie, qui a commencé à graver les murs avec du charbon de bois quand il était apprenti boulanger, qui a continué à récupérer des boîtes de conserve, des bouteilles, pour en faire des sculptures absolument magiques et magnifiques. Son univers rayonne partout. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une exposition à la mairie du 20e avec ses œuvres. On peut les voir également à la Fabuloserie, souvent. Et puis on peut les voir également, malheureusement la Fabuloserie est en train de se demander si elle ne veut pas rendre les clés. On peut le voir également au musée d'art brut qui se trouve à Montmartre. Donc c'est un peintre qui toute sa vie vécu extrêmement sobrement dans une toute petite pièce où il travaillait pratiquement sans chauffage et qui ensuite chaque soir allait vendre ses œuvres de porte en porte parce qu'il considérait que ce qui était le plus important, c'était que les œuvres circulent. Il avait comme conception, un peu comme un boulanger, puisqu'autrefois il était boulanger, de considérer que tout ce qu'il avait produit de ses mains devait être consommé le jour même. Ce n'était pas quelqu'un qui gardait. Il distribuait, il offrait ce qui n'avait pas été vendu. Et une grande exposition se prépare en Tunisie, au Palais de la Culture, et nous aurons le plaisir de retrouver ses œuvres très bientôt également.
Merci, merci, merci Catherine. Donc, une autre information, il y a une pièce aussi très intéressante de la part de Catherine qui nous envoie donc ce passage qui s'appelle Jamais Plus. La pièce s'appelle Jamais Plus. Donc, il y a une générale de presse le 14 décembre de 18h et le 15 décembre à 20h, au Théâtre des Variétés. Donc pour découvrir cette pièce, Jamais Plus, quand la jeunesse allemande se soulève, d'écriture et mise en scène par Geoffroy Lopez, deux générales de presse qui sont proposées le 14 décembre à 18h et le 15 décembre à 20h au Théâtre des Variétés. Merci, à toi Nicolas.
Quand elle se donne, les chansons qu'on fredonne, les oiseaux migrateurs. Vraiment, je n'en veux à personne, je ris à tous les hommes, les larmes de mon cœur. Amour, mon infinie faiblesse,
Les mots que je t'adresse sont des arrache-cœur. Vraiment, le rien ne me console. Ma vie s'en va toute seule. Je suis porte-malheur. Sont déjà derrière moi. Amour, ton cœur qui se détache, je voudrais tant qu'il sache que je croyais en toi. L'hiver, la neige me caresse. Mes chemins de traverse sont déjà derrière moi. Derrière moi. Je n'ai plus rien à te dire. Je n'ai plus rien à rire. Peu m'importe les hommes. Ma vie, je te la donne. Ne la vends à personne. Je suis un migrateur.
Jean-Marc Le Billan, Le Migrateur. Ce que j'aime bien quand Gilles vient dans ce magazine sur Radio Libertaire, c'est que ça peut être l'occasion de rendre un petit hommage à quelques chanteurs tels que Jean-Marc Le Billan et quelques autres. Et ce que j'aime bien quand Gilles vient dans cette émission, c'est que ça permet aussi de rendre quelques hommages à un auteur de texte qui s'appelle Gilles. Sinon, sur l'antenne de Radio Libertaire, un petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie à nouveau, un autre.
De Jacques Prévert, tiré de ces histoires. Le chat et l'oiseau. Un village écoute, désolé, le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village. Et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier. Et puis, je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler. S'envoler jusqu'au bout du monde. Là-bas où c'est tellement loin que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin. Simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Un beau matin, il n'avait peur de personne. Il n'avait peur de rien. Mais un matin, un beau matin, il croit avoir quelque chose. Mais il dit, ce n'est rien. Et il avait raison. Avec sa raison, sans nul doute, ce n'était rien. Mais le matin, ce même matin, il croit entendre quelqu'un. Et il ouvrit la porte. Et il la referma en disant « Personne ». Et il avait raison. Avec sa raison, sans nul doute, il n'y avait personne. Mais soudain, il eut peur. Et il comprit qu'il était seul. Mais qu'il n'était pas tout seul. C'est alors qu'il vit rien en personne devant lui.
Voilà, c'était notre petit cadeau de texte de Prévert et j'aurai pour à 6 minutes de la fin de l'émission un long morceau encore proposé par Evelyne et Jean-Marie. Mais comme ce sera à 6 minutes de la fin de l'émission, ça nous laisse 11 minutes devant nous. Moa.
Alors Catherine, quelque chose à nous dire également ?
Oui, puisque nous étions dans la nostalgie avec ces 6 merveilleux textes de Prévert que nous adorons tous, nous pensons forcément également à Mouloudji. Puisque ses son centenaire cette année, et nous l'avons fêté dignement au Lapin Agile, où des gens de plusieurs pays se sont réunis pour lui rendre hommage. Odile Reignac, qui l'a bien connu, a chanté ses refrains, accompagné de ses amis musiciens, et d'un excellent comédien qui déclamait également les vers. Et ce Lapin Agile était plein. Mouloudji vit toujours par ses chansons, par ses films. Il existe une association d'ailleurs qui est de fans de Mouloudji et qui a son rayonnement jusqu'en Algérie. Mmh. Il se trouve que la nouvelle ministre de la Culture en Algérie a le même nom. Mmh. C'est Madame Mouloudji, que je salue au passage. Et nous pouvons également parler de cette revue A, puisque Marie Virol est également éditrice et qu'elle a édité justement un livre qui vient de recevoir le prix Ronsard. Donc si cela vous intéresse, je vous conseille de vous rendre à la Maison de la Poésie le 7 décembre, au soir, et pour découvrir de nouveaux auteurs.
C'est à quelle adresse ?
La Maison de la Poésie, eh bien écoutez, vous savez qu'elle se trouve... ah oui, excellente idée de me poser la question, parce que la Maison de la Poésie se trouve habituellement Passage Molière, c'est-à-dire à Rambuteau. Mais il se trouve que pour cette cérémonie particulière, ça sera au 11 rue Balu, je pense. Voilà.
D'accord.
À vérifier quand même, hein, sur Internet.
11 rue Balu.
Voilà. Dans le 8e arrondissement, c'est-à-dire que je crois que c'est le lieu de la SGDL ou de la SCAM. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'on aurait quelque chose de Mouloudji dans la cabine ?
Il y a des gens qui ont tenté tant d'argent, que ça leur cause des ennuis et que ça leur brise la vie. Dire qu'il y a des gens qui ont tenté tant d'amour, qui se dégoûtent du plumard jusqu'à la fin des jours. Dire qu'il y a des gens qui, de façon adroite, portent leur cœur à gauche mais le portefeuille à droite. Dire qu'il y a des gens qui ont tenté tant raison, que si vous n'êtes pas d'accord, ils vous foutent en prison. Mais comme dit ma concierge, qui écrit des chansons, c'est de la faute à personne si les gens sont trop.
J'ai mal entendu.
Dire qu'il y a des gens qui font taire l'une terre, et que c'est si difficile d'aller jusqu'à Nanterre. Dire qu'il y a des engagés qui feraient battre les mères, mais qui se font dégager dès qu'on déclare la guerre. Dire qu'il y a des altruistes qui, pour faire votre bonheur, vous envoient au casse-pipe fleurir les champs d'honneur. Dire qu'il y a des gens qui veulent tout réformer et ne peuvent supporter même leur voisin de palier. Mais comme dit ma concierge, qui écrit des chansons, c'est de la faute à personne si les gens sont trop.
autre quoi ?
Dire que pour être acteur, fallait porter le costume. Maintenant, pour faire son beurre, il faut même plus une plume. Dire qu'il y a des filles, de vrais appels au viol, qu'on le derrière étonné dès qu'une main batifole. Dire qu'il y a des gens qui veulent tout gouverner, avec des IAK et des mois sujettés. Dire qu'il y a des uns qui écrivent des chansons sur la misère des autres et font beaucoup de pognon. Mais comme dit ma concierge, qui écrit des chansons, c'est de la faute à personne si les gens sont trop.
Ben oui, je l'ai dit.
En 1971, la musique est de Chris Carroll et les paroles de cette chanson délicatement acide sont de Mouloudji lui-même.
Ah, formidable. Il nous a beaucoup plu aussi avec sa chanson « Les petits coquelicots ». On n'aurait pas les petits coquelicots ? On va voir peut-être si on a les petits coquelicots ?
On va voir, mais je m'étais dit qu'on allait changer un peu par rapport...
Pardon. Alors, j'aimerais au passage moi rendre hommage à la famille Henkel, qui, depuis de longues années, dirigeait le Centre de documentation de recherche sur l'anarchisme à Lausanne. Il y avait donc Marianne Henkel, il y avait Marie-Christine, il y avait Stoyadine, il y avait Pierre Henkel. Et des gens du monde entier venaient dans cette maison se documenter. Et merci encore à Marianne Henkel de tenir ce lieu un peu unique en Europe.
Alors, avant la fin de cette émission, donc Dessous de scène, voilà un petit passage par notre grand ami mystique. Ne brise pas le cœur de celui qui te cherche. Laisse-la ses manières tyranniques. Aie pitié, ô ma beauté, car selon la loi, il n'est point permis de sacrifier l'animal chétif. Oui. Je suis ivre de toi. Laisse dans ma main cette coupe de vin précieux. Conseille-nous, oui, éteins la flamme. Éteins de ces yeux enivrés et pareil en Narcisse. Ordonne aux magiciens de l'Inde de mettre un frein à leur sorcellerie. L'amoureux est tombé dans le sextuple piège. Brise la porte de cette prison aussi vont-ils. Préservé de la magie par ses prières, avance un instant, oui, un instant, et rassemble le cercle des péris. Cette ivresse, à chaque instant, se prosterne devant le vin de l'au-delà. Elle est comme le roseau qui se courbe à la façon du serviteur, pareil à la plume docile dans la main du maître, plein de douceur. Ô, amour, viens. Viens vers nous, fraternel, toujours. Renonce aux salutations cérémonieuses, ô et chansons de l'âme. Au nom de la réalité suprême, ne néglige pas les devoirs de la fraternité. Ô Noé de ce temps, oui, Noé de ce temps, fais voguer sur les eaux ce navire qui toujours tend à rester à l'ancre. Ô vicaire de Mustapha, fais circuler cette coupe remplie. Rempli à la fontaine de Kauthar, tu apportes un message tel que celui de l'ange qui souffle dans la trompette. Oui, dans la trompette. Ouvre tes lèvres alors, qui prophétise. Ô toi, rayonnant, qui porte l'étendard. Ouvre tes ailes, comme Jafar. Comme Jafar, mets la couleur des tulipes et des roses sur ce visage couleur de safran. Couleur de safran, ai-je dit. Pour moi, je ne rendrai pas de... Nouveau pâli, oui, je ne rendrai pas de nouveau pâli ce visage empourpré par le vin. Khalil Gibran.
يمور الطصغر أشفي غثم وثلطي ورزرين بفرارة ورزرين بفرارة ثني ضي اسمي تلولا عذو نرغب غينا لهم يسد فرحة ضميم قرار القرى هذو غمس في سلت في الحارة سني ضي اسمي دولا هذا ونرغب غينا لهم يسد فرحة ضمي مقرى هذو غمس في سلت في الحارة
Je vous aurais passé bien quelques mesures de plus de Shfir de Idir, mais dans 6 minutes commence effectivement sur l'antenne de Radio Libertaire Bulle de rêve, les coulisses du cinéma d'animation, et 6 minutes, c'est le temps du dernier cadeau d'Evelyne et Jean-Marie.
Il était sorti d'une feuille de papier où il était écrit « Hélas !» Aussi loin que les plantes soupirent et se penchent, il a pris son essor, aussi libre que celui qui glisse, pour raconter un rêve biscornu. J'ai piqué un mot au hasard dans le dictionnaire qui me cria. Tu ne manques pas d'air. L'insecte tournoya un instant juste au-dessus de mon nez. Il était fabuleux comme une histoire sans tête. Il riait à gorge déployée. Vous ne me croirez pas, mais cet insecte avait écrit le mot « hélas » simplement en lisant sur les lèvres d'un inconnu qui avait salué le printemps. C'est qu'à l'origine de cet « hélas », ce drôle d'insecte, capable de griffonner son nom sur les feuilles d'arbres, il y eut un homme couché par terre qui rendit son dernier soupir en disant « Hélas. Et ce jour-là, il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel. Mais cet insecte sortit tout droit du cri du cœur de quelque inimaginable, éphémère hominidée, a tendance à s'orienter toujours là où les villes s'endorment, là où les murs sont nus, au-dessus de mains voyageuses. Il s'empare de tous les regrets muets, regard désolé et princier. Sur leurs souches d'ombre. Comme il fendrait une larme au soleil, son corps entier est une harpe. Ô souvenir, je vous ai trop bu, et je n'ose voir deux arbres qui se touchent, mais crois entendre quelque insecte, hélas, sur l'eau croupie d'un banc public, prendre son envol, et c'est heureux. Hélas, voltige encore au-dessus des nuées.
Surtout quand le vent d'octobre de ses doigts glacés punit mes cheveux, pris comme un crabe dans le soleil, je marche autour du feu et mon ombre portée est un crabe sur terre. Le long du bord de mer, j'écoute les oiseaux tapageurs et le corbeau qui pousse dans le bois sec de l'hiver. Mon cœur affairé qui tremble quand elle parle perd le sens syllabique et draine ce qu'elle dit. Enfermé, moi aussi. Dans une tour de mots, je trace sur l'horizon qui marche comme les arbres de verbeux corps de femmes. Et dans le parc, les fils d'enfants aux gestes d'étoiles. Certains me laissent faire avec des voyelles les êtres. D'autres avec les voix, les chaînes, ou avec les racines, te donner des nouvelles de maintes régions d'épines. Les uns me laisse te faire avec le caquetage de l'eau derrière un pot de fougère. L'horloge qui jacasse me dit le mot de l'heure. La signification des nerfs vole sur le balancier, déclame le matin et dit le mauvais temps qui fait tourner le coq. Certains me laissent faire avec des signes, des prés, l'herbe éclatante qui me dit tout ce que je sais, pointe dans l'œil avec l'hiver véreux. Certains me laissent faire avec les péchés du corbeau. Certains me laissent faire avec les sortilèges de l'automne, les langues d'araignées et les collines sonores de Galles. Certains me laissent faire. Quand le vent d'octobre punit la terre de ses points de rave, certains me laissent te faire avec les mots sans cœur. Le cœur est ponctionné, épelant dans le tourbillon du sang chimique, averti de la fureur qui monte le long du bord de mer. Écoute les voyelles sombres des oiseaux. Dylan Thomas. Merci.